vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Et oui, nous avons sans cesse dans la vie des choix à faire, que ce soit dans tous les domaines. Aujourd'hui, évidemment, on parle plus particulièrement des décisions que l'on prend dans le domaine affectif, qui est peut-être encore plus, trouble, parce que c'est pas simple de savoir exactement ce qu'on veut, étant donné que quand on tombe amoureux, on a quand même toujours envie de croire que c'est la bonne personne. Yves-Alexandre Talman est avec nous, psychologue, spécialiste en développement personnel et auteur de nombreux ouvrages, notamment accepter pour être heureux, et c'est peut-être aussi important de le rappeler, hein. On a entendu tout à l'heure Fred qui parlait du fait qu'on était parfois son pire ennemi, et si on est son pire ennemi, évidemment on n'est pas sûr de prendre les bonnes décisions, n'est-ce pas Yves-Alexandre Talman?
Effectivement, mais il y a de l'espoir, parce que si on est son pire ennemi, ou en tout cas un ennemi pour soi-même, rien n'empêche aussi que l'on apprenne à devenir un ami. J'aime bien l'expression d'être en bonne compagnie avec soi-même, quand on a du temps mignon à perdre, et puis qu'on peut penser, si on a des pensées qui sont plutôt favorables, eh ben ça aide quand même à vivre des moments plus agréables.
Mais c'est vrai que ces choix qu'on fait qui nous mettent en échec, c'est parfois des choix comme si on n'était pas fait pour réussir, comme si on avait un lien de loyauté vis-à-vis de ses parents. Enfin, il y a tout ça aussi, hein, qui entre en jeu dans nos décisions.
Oui, il y a un passif quelque part. Hein, On peut réfléchir avec l'idée d'éviter la souffrance. Hein. Je crois que ça paraît assez évident que notre cerveau va nous amener plutôt à prendre des décisions pour éviter de souffrir. Mais parfois, on choisit, pour éviter une souffrance qui nous paraît immense, une autre souffrance. Et celle-ci, avec le temps, bien sûr, elle creuse son sillon et puis ça se révèle être beaucoup plus problématique. C'est pour ça qu'on a ces fameuses croyances, hein, qui restent dans un coin de notre esprit, puis qui nous amènent à prendre des décisions à répétition, hein, qui nous amènent à souffrir, mais peut-être qu'elles nous protègent de quelque chose de pire, hein, qui nous effraie en tout cas beaucoup plus.
Oui, absolument. Alors la réponse à ma devinette, pourquoi les hommes auraient intérêt à emmener leurs femmes en club naturiste ?
Je crois que j'ai pas la réponse à la devinette, mais j'ai par contre une bonne réponse à la question.
Oui, allez-y.
C'est que si on parle d'un club naturiste qui se respecte, pas d'une plage nudiste, hein, d'un club naturiste qui se respecte, c'est souvent des endroits familiaux et les hommes seuls sont pas forcément les bienvenus. Donc y aller avec sa compagne, c'est le ticket d'entrée.
N'est-ce pas? Bon, en fait, la bonne réponse, évidemment, c'est pas celle-là, hein, c'est simplement parce que comme ça, elle ne pourra pas se plaindre de n'avoir rien à se mettre. Vous savez que les femmes se plaignent toujours de ne pas savoir quoi mettre, si on l'emmène dans un club naturiste. Il n'y aura pas de ce genre de problème, voilà. Marc est avec nous, bonjour Marc.
Bonjour Brigitte, bonjour Yves-Alexandre.
Bonjour.
Alors, effectivement, la décision, un jour peut être très bonne à prendre, et puis avec le temps, on s'aperçoit que ce n'était pas forcément la meilleure décision à prendre. Et moi, j'ai souvent ressenti ça dans mes différentes relations amoureuses, où je pensais faire le bon choix de mes partenaires, ou ne pas être seul, et ainsi de suite, de vivre un moment agréable. Et puis, à la fin, me dire que c'est pas forcément la personne que j'attendais absolument. Et finalement, quand il y a la rupture, que ça se termine, de se dire, bon, est-ce que j'avais fait le bon choix, est-ce que je faisais le bon choix de la rupture par moment? Et voilà, j'ai connu ça plusieurs fois dans ma vie, et puis là je suis en train peut-être de reproduire la même chose encore dans mon couple.
C'est-à-dire, vous êtes en train de peut-être vouloir rompre
Voilà, par rapport à la situation dans laquelle on est, la question arrive de se dire on a vécu des bonnes choses, mais la communication est compliquée et finalement, on est peut-être, si on reste, on est là peut-être pour plus souffrir que de profiter. Et du coup, la question se pose, est-ce que faut-il continuer, arrêter, sachant qu'il y a des hauts et des bas en permanence. Enfin, en permanence, il y a souvent des hauts et des bas et ça crée des tensions. Et vers le moment, il faut prendre la bonne décision.
Oui, vous savez Marc, quand on commence à se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de rester, c'est que déjà quand même il y a des tas de choses qui ne vont plus. quand on en arrive à se la poser, cette question-là, c'est que quelque part, il y a quand même déjà des mois, voire des années qui posent problème. Donc là, ce qu'il faut, c'est encore une fois, peut-être d'abord essayer de communiquer ensemble et voir qu'est-ce qui ne va pas et s'il y a moyen de dépasser ce qui ne va pas. Mais je suppose que ça, vous l'avez déjà fait.
Oui, tout à fait. Ça, j'adore communiquer. Après, le problème, c'est la compréhension entre les hommes et les femmes. C'est pas forcément toujours aisé. Et c'est pas toujours la même signification des termes. Oui, je veux communiquer. On essaye de communiquer, mais parfois dans la communication, on n'arrive pas à être même sur le même niveau de compréhension. Et du coup, ça crée des tensions supplémentaires. Et là où moi, personnellement, j'essaye de vraiment de mettre des mots sur des choses, parfois factuelles, parfois sur de l'émotion, ben, le message n'est pas forcément perçu. Et voilà, après, j'ai également ma part de responsabilité là-dedans, bien évidemment. Mais c'est le fait de dire on n'arrive pas à se mettre d'accord, à s'accorder, ne serait-ce que dans des explications. Et c'est très perturbant.
Ce que j'entends, et après je donne la parole à Yves-Alexandre Talman qui a certainement entendu beaucoup de choses aussi, ce que j'entends c'est que de toute façon vous répétez toujours ce sentiment de devoir partir au bout d'un certain temps dans une relation, c'est-à-dire que c'est pas la première fois que vous êtes dans ce sentiment que ça sert plus à rien de rester, qu'il faut peut-être partir et qu'en même temps vous n'arrivez pas vraiment à prendre cette décision, il me semble. Hein.
Disons qu'il y a des relations où c'est la personne qui a mis fin à la relation, d'autres où c'est moi qui ai mis fin, d'autres où ça paraissait évident qu'on pouvait pas aller plus loin pour différentes raisons. Après là c'est une longue relation, il y a des enfants, voilà, il y a pas mal de choses, donc c'est une nouveauté pour moi, on va dire le stade dans lequel je suis, parce que pour moi D'accord. Chaque relation est différente, et c'est de se dire on s'entend bien sur des choses, mais sur d'autres, sur des détails entre guillemets, des incompréhensions, et c'est ne plus être capable d'être à l'écoute de l'autre, d'entendre et les tensions qui vont avec.
Bien sûr. Yves-Alexandre ?
Comme dans ce que j'entends, il y a des bons côtés. Hein, il n'y a pas que des tensions, des incompréhensions. Je me dis si ce n'a pas été fait, le fait d'aller trouver en couple quelqu'un, un professionnel, peut aussi donner un éclairage, comme on le disait tout à l'heure, avec un petit peu de recul. Parce que quand on est pris dans ses propres fonctionnements, avec son partenaire, on va se retrouver à dire des choses ou à réagir d'une certaine façon. Mais de le faire en présence de quelqu'un qui nous rend attentif et qui nous donne peut-être des pistes alternatives, ça peut, je ne vais pas dire sauver le couple, hein, ce n'est pas le but, mais peut-être donner d'autres types de comportements pour essayer d'enrayer certains cercles vicieux pour après prendre une décision encore plus éclairée. Hein.
Oui. Moi, ce que j'ai tendance à dire, Marc, quand on est dans cette hésitation, qui est pénible d'ailleurs, parce que c'est pas confortable pour sa sécurité affective, ce genre de situation. Mais j'ai quand même tendance à dire qu'il faut pas précipiter les choses. C'est-à-dire qu'il sera toujours temps de partir quand vraiment ça semble évident. Et peut-être que c'est une phase dans laquelle il faut un petit peu attendre. Il y a un peu d'incertitude des deux côtés. Voilà le conseil que je pourrais donner.
Oui, il y a l'incertitude. Pardon, il y a l'incertitude un peu des deux côtés. Il y a surtout le fait aussi que, au bout d'un moment, comme je disais tout à l'heure, on n'arrive pas à s'entendre. Moi, je peux dire éventuellement les choses dont je pourrais avoir besoin, exprimer. Ma compagne n'entend pas forcément ça. Des moments, elle me dit très elle-même qu'elle n'est plus en capacité de, soit d'avoir entre guillemets une pseudo-empathie pour moi, ou d'essayer de comprendre une situation. Bien sûr que ça me fait mal, et moi derrière peut-être de pas non plus répondre à ce qu'elle peut attendre. Et c'est là, on a des bons moments, mais c'est arrivé à se dire, mais est-ce que ça va continuer comme ça tous les jours? Est-ce que un jour sur deux, on va se refaire la tête? Est-ce qu'on en arrive là? Et ce qui est dur pour moi, c'est que je préférerais quelque chose de franc, net et direct, on va dire, dans une décision.
Oui,
peut-être même être lâche et dire à pas prendre la décision et de juste la subir. Et puis voilà. et de se dire, mais je sais
que oui, mais Marc, ce que j'entends, c'est que il y a des, comment dirais-je, il y a des fantômes dans le placard, là. Il faut peut-être que vous arriviez à mettre, enfin, à vous dire franchement ce qui, toutes les rancœurs qui se sont accumulées et voir si ça vous permet de repartir sur d'autres bases. Il y a peut-être eu justement trop de non-dits, trop de choses qui n'ont pas été nettoyées.
Là, je pense qu'il y a une part, effectivement, on s'est dit énormément de choses, ce qui n'allait pas dans notre couple, ce qui n'allait pas chez nous, chez l'autre. Il y a aussi effectivement des fantômes ou des cadavres qui réapparaissent au fur et à mesure que le temps passe sur sa propre personne, se redécouvrir. Mais voilà, c'est comme si effectivement quelque chose s'était vraiment essoufflé et.
Mais est-ce que vous avez encore des projets communs? Est-ce que vous avez encore des valeurs communes et une vision commune de votre futur? Parce que c'est aussi ça qui permet à un couple de continuer.
Je dirais honnêtement, en toute honnêteté, non, pas forcément. Moi, je suis même parfois à reculons, à pas vouloir me projeter sur des projets de grande envergure. Ça puisse être par exemple des vacances quelque part, je sais pas où, voilà, ou des choses comme ça, et peut-être à pu se voir au jour le jour et me dire tiens, j'aimerais bien avoir une sécurité, on va dire, affective et sexuelle et autres, et me dire je me sens bien pendant 2-3 semaines, etc.
Bon, je vais évidemment demander l'avis d'Yves Alexandre Talman, mais moi ce que j'entends, c'est que de toute façon vous êtes déjà parti. Yves Alexandre Talman, qu'est-ce que vous diriez?
Ça semble aller dans cette direction-là, mais j'abonde aussi dans votre sens qu'on sent qu'il y a des éléments, enfin les fameux fantômes dans le placard qui hantent l'esprit, qui hantent la relation, et que peu importe la décision, partir, rester, les fantômes vont pas se dissiper pour autant. Peut-être ceux de la relation, oui, mais les fantômes personnels, eux, ils ont tendance à nous suivre où qu'on aille. Et ça vaut quand même la peine, certainement, que de creuser dans cette direction-là.
Oui, donc en fait, on pourrait conseiller Marc d'aller au moins consulter seul pour essayer d'être un peu plus clair et puis d'éclairer justement ce placard dans lequel rôdent des fantômes. Et puis ensuite, ça sera plus simple sans doute de prendre votre décision. Merci en tout cas de vous être confié à nous. On fait une petite pause et Muriel nous rejoint. Bah oui, elle aussi, elle prend souvent des mauvaises décisions. Mais rassurez-vous Muriel, on est tous pareils. On se retrouve dans un instant.
Écoutez Sud Radio Lille en DAB+.
Sud Radio.
I'm going on during this time. I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away. You're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under in this time. I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you know to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. And I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. I'll be safe in your soul till I come back around. For now the day
tonight you know I'm here to get me through it all. I let my guard down and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being so what you love, but now the day bleeds into nightfall and you're not here to get me through it all. I let my guard down and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being so what you love, to let my guard down and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being so what you love.
Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Yves-Alexandre Talman est avec nous, psychologue, spécialiste en développement personnel, auteur de « Qu'est-ce qu'on peut être con ?» aux éditions Mardaga. Et on retrouve maintenant Muriel. Bonjour Muriel.
Bonjour Brigitte. Bonjour Yves-Alexandre Talman.
Bonjour.
Alors merci d'être avec nous Muriel. Et vous, vous considérez que vous prenez toujours les mauvaises décisions parce que vous avez peur du changement, hein, c'est ça ?
Oui, alors pas toujours parce que y a mon ego aussi qui parle, hein, mais des décisions parfois oui, mais pas plus tard qu'hier, j'ai été prendre rendez-vous chez un ostéopathe. Alors je sais éperdument qu'à chaque fois que je sors, je le connais depuis très longtemps, je sors de là, je suis en colère parce qu'en fait le soin est très rapide, il répond au téléphone, il va faire deux petites courses à côté, ben voilà. Donc à chaque fois je râle, mais je ne peux pas me détacher, me dire bah tu vas appeler quelqu'un d'autre. Alors peut-être par peur de l'inconnu aussi. Voilà, donc à chaque fois, et là je me suis dit, écoute, maintenant, c'est ta faute, hein, donc tu ne râleras pas. Voilà, je me suis conditionnée.
Oui, oui, voilà. Oui. Voilà. Oui, c'est curieux, c'est curieux parce que là, c'est pas très compliqué d'aller voir quelqu'un d'autre à partir du moment où celui-là ne correspond pas à votre attente.
C'est clair. Alors, je pense qu'il y a un aura qui est tel, parce que je trouve qu'il est, c'est un très bon professionnel, qui est reconnu, il intervient dans une école d'ostéopathie. Donc, est-ce que c'est ça qui me rassure aussi? Parce que je me dis, ma foi, c'est quelqu'un qui maîtrise, qui... Alors, est-ce que c'est ça, alors qu'il y a des jeunes qui commencent, qui méritent autant...
Il est évident que, visiblement, vous ne sortez pas satisfaite du soin. Donc, ça veut bien dire que il n'est pas bon pour vous, ce qui est peut-être charismatique. Mais il est pas bon pour vous. Alors peut-être que vous êtes un peu sous l'emprise du fait qu'il ait une certaine aura. Vous voyez,
c'est ce que je pense. J'ai réfléchi aujourd'hui, je me suis dit mais pourquoi tu t'acharnes? Et je pense, en réfléchissant aujourd'hui, je me suis dit est-ce que c'est pas ça qui fait que ça te fait passer tout le reste finalement? Je sais pas.
Oui, mais c'est possible. Est-ce que vous avez tendance à respecter l'autorité un peu trop, vous voyez, respecter un petit peu trop les personnes qui ont une certaine influence? Enfin, est-ce que vous êtes un petit peu timide? Enfin, un petit peu dans.
J'ai tendance au contraire. J'ai tendance à dire dès que ça va pas, quelle que soit la personne que j'ai en face. Au contraire, justement. C'est paradoxal.
Bon. Alors, est-ce que vous êtes inconsciemment amoureuse de cet homme?
À croire.
Yves-Alexandre Talman, qu'est-ce que vous diriez à Muriel?
Alors, sans entrer dans les couches plus profondes de la psyché, ce que je pourrais conseiller, comme ça paraît difficile de ne pas aller chez ce professionnel, rien ne dit que Muriel ne puisse pas aller chez un nouveau professionnel. Autrement dit, essayez de prendre rendez-vous chez, ben, on va dire, un jeune ostéopathe ou un autre. Juste pour essayer, hein, sans forcément tirer un trait sur l'habituel,
celui-là,
entre guillemets.
Oui.
Et de faire l'expérience. Si vous ressortez en étant cette fois différente, en étant mieux, plus détendue, en n'étant pas contrariée, ça vous fait une expérience qui permet après de comparer et d'opérer le changement, le cas échéant.
Ah oui. D'accord. Et malgré moi, pourtant j'ai la liste. Alors je fais, mais ma main se dirige vers ce numéro-là et voilà. Et je me sens satisfaite une fois que j'ai pris rendez-vous. Alors je me dis, mais c'est quand même, c'est très questionnant.
Ah, j'ai aussi un conseil. Ah. Alors pour cette question-là, vu que vous avez la liste, vous donnez cette liste à une amie. et vous lui confiez la tâche, puisque apparemment il y a une résistance, un blocage chez vous, vous confiez la tâche à l'ami de choisir pour vous un autre professionnel, mais juste pour faire un essai, hein. Il ne s'agit pas de changer quoi que ce soit, juste de faire pour une séance un essai, et puis de voir ce qui se passe.
Oui, parce que si ça se trouve, c'est peut-être tout simplement parce que l'ostéopathie, vous trouvez que finalement ça vous soigne pas vraiment. Enfin, vous savez, parfois on a des raisons qui sont différentes de ce qu'on croit être la cause de notre déception.
Ah oui, peut-être aussi, oui. Ouais. Et... j'avais pas pensé.
Je dis pas que c'est ça, hein. Je dis juste qu'il faut...
Mais pourtant j'y crois parce qu'il y a des résultats par rapport à mes pathologies. Il y a quand même du résultat au bout. Voilà. Donc est-ce qu'inconsciemment, je sais pas.
Ou alors vous en attendez trop et vous êtes forcément déçu. Enfin voyez, on peut trouver une multitude de réponses. Mais en effet, ce que vous propose Yves Alexandre Talman est intéressant. Allez en voir un autre, même si c'est quelqu'un d'autre que vous qui choisissez, et vous verrez bien comment vous ressortez. Si vous ressortez aussi déçu, c'est pas la même chose. Vous voyez ?
Ça vient d'ailleurs, oui, tout à fait.
Et puis peut-être qu'il faut en effet comprendre aussi qu'on aime bien nos habitudes, on aime bien aller chez le même commerçant, on aime bien se mettre à la même place dans le lit, on aime bien. Enfin, on est quand même des êtres très 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 coincé dans nos habitudes, et je dis coincé exprès, hein, Yves Alexandre Talman, c'est vrai.
C'est la même raison pour laquelle nous avons ces biais cognitifs. C'est en fait pour économiser de l'énergie. Maintenant, au niveau de notre société, on sait que l'énergie n'est pas forcément en quantité illimitée, en tout cas sous toutes ses formes, et donc qu'il faut faire attention avec les quantités que l'on a à disposition. Et pour notre cerveau, c'est la même chose. On n'a pas une infinité d'énergie. Donc, comment il s'y prend pour faire des économies ? Il automatise. Il automatise des gestes, des séquences de gestes, des décisions, qu'on appelle les routines, les habitudes. Mais aussi pour la pensée, de penser de façon biaisée, de façon stéréotypée, de façon plus rapide. Ça a toujours comme but l'économie d'énergie. Mais quand cette économie d'énergie se traduit par de l'insatisfaction, alors là, le calcul devient mauvais et puis c'est le temps d'opérer un changement.
Voilà. Bon, écoutez, vous avez des pistes et puis vous verrez bien qu'est-ce que ça donne, Muriel.
C'est clair. Oui. Alors, après, c'est rien de grave, mais c'est particulier. C'est questionnant.
Bon, merci en tout cas d'avoir échangé avec nous, Muriel, parce que sur des choses très simples comme ça, on peut aussi aider ceux qui nous écoutent à prendre de meilleures décisions. Vous allez faire, on va faire une petite pause, Yves Alexandre Talman, et on va revenir sur un love conseil. On va parler de nos besoins relationnels, et je suis sûre que vous aurez beaucoup de choses à dire également sur ce love conseil.
Sud Radio Le Puy-en-Velay.
91.
Sud Radio.
Je préfère danser avec mes silences pour tout recommencer en quelques pas de danse. Et s'il ne reste plus rien du tout et que tout tourne, tourne, tourne autour de nous, je t'écrirai une chanson pas comme les autres. Et si tout je remettrai de l'encre sur mes paupières. Je te sourirai sans larmes et sans prières. Et s'il ne reste plus rien, du tout, et que tout tourne, tourne, tourne autour de nous, je t'écrirai une chanson pas comme les autres. Et si tout tourne, 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 ce sera la nôtre. Et si le temps change,
Webcam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
Brigitte Lahaye, Sud Radio, le Love Conseil.
Yves-Alexandre Talman est avec nous. On va parler de nos besoins relationnels. Yves-Alexandre Talman, c'est vrai qu'on connaît nos besoins de dormir, de boire, de manger et d'être aimé, hein, bien sûr. Mais sur les côtés, sur les besoins relationnels, on est finalement assez vague. On entend souvent j'ai besoin d'être aimé, bien sûr, certes. Mais il y a quand même quelque chose d'essentiel à comprendre, c'est que l'amour, ça ne comble jamais tous nos besoins relationnels. Donc c'est peut-être important de comprendre exactement de quoi on a besoin quand on est dans une relation. Il y a des personnes qui ont énormément besoin de se parler, hein, de se dire et d'être entendues, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs toujours la même chose. Il y en a qui ont besoin d'être admirées, d'être connues, d'être appréciées. D'autres qui ont réellement besoin beaucoup d'intimité, hein, c'est-à-dire à la fois de la tendresse, de la sexualité. D'autres qui vont avoir besoin de garder une certaine indépendance, avoir un vrai jardin secret, d'autres qui ont besoin d'avoir du pouvoir, en tout cas d'avoir la sensation d'avoir des responsabilités dans la relation. On peut aussi avoir le besoin d'avoir des fantasmes, ou en tout cas de se rêver un futur possible à deux. Donc tout ça c'est important parce que c'est pas forcément les mêmes, hein. On peut avoir des besoins qui ne sont pas les mêmes que ceux de notre partenaire, et pourquoi pas, c'est pas forcément incompatible. Mais c'est important peut-être d'être plus clair sur les besoins qu'on a soi-même, et puis peut-être aussi de pouvoir en parler avec l'autre pour voir si les besoins de l'autre, on peut les satisfaire ou il peut se les satisfaire autrement. Yves-Alexandre Talman.
J'ajouterais encore parmi toute la liste que vous avez citée, le besoin de reconnaissance. J'ai remarqué, hein, notamment avec les couples que j'ai pu aider, que ce qui est important, c'est de paraître ou d'être, d'avoir l'impression d'être une personne bien dans le regard de l'autre. Alors ça vaut bien sûr aussi pour les amis. J'irai pas jusqu'à l'admiration, mais en tout cas...
Oh, presque, oui, oui, oui.
Ouais, hein, dans certains cas, on peut aller jusque-là, hein. Mais de voir que nos amis, nos proches, alors peut-être certains membres de notre famille, mais surtout nos partenaires amoureux, quand ils s'adressent à nous, quand ils nous regardent, ils s'adressent à quelqu'un de bien. On a l'impression d'être quelqu'un de bien qui a de la valeur, hein, estime de soi, on retrouve le terme ici. Et souvent, quand les couples commencent à dysfonctionner, c'est ça qui disparaît. On voit l'autre à travers ses défauts, à travers ses problèmes, et puis ça crée de la distance. Et il y a rien de tel, hein, pour ouvrir les portes, hein, de l'infidélité, où on va retrouver dans le regard de quelqu'un d'autre cette impression d'être quelqu'un de bien et d'avoir de la valeur. Donc parmi tous ces besoins relationnels, moi, j'aime bien aussi souligner celui-ci, hein, le besoin d'estime et de reconnaissance.
Oui, oui, absolument. Alors, Marie nous rejoint. Bonjour, Marie.
Oui, bonjour, Brigitte, et bonjour, Yves-Alexandre.
Bonjour. Vous êtes en couple et vous avez peur de prendre une mauvaise décision. Donc, on vous écoute, Marie, allez-y.
Alors, c'est pas exactement le fait que j'ai peur de prendre une mauvaise décision aujourd'hui, mais j'ai failli, il y a quelques mois, prendre justement une mauvaise décision par rapport à mon conjoint. Donc, ma situation actuelle est que je vis seule avec ma fille. Et il y a 6 mois de ça, mon conjoint vivait avec nous. Voilà, on s'est rencontrés il y a 2 ans et au bout d'un mois, il est venu vivre à la maison. Donc, on l'a accueilli avec plaisir. C'était un coup de foudre dès le début. Voilà, donc je l'aime, il m'aime, on se le prouve. Donc, jusque-là, tout allait bien. Et donc, quand j'ai rencontré mon conjoint, il m'avait expliqué qu'il était en instance de divorce qui traînait. Et malheureusement, sa fille, préadolescente à cette époque, il y a 2 ans, n'avait pas voulu suivre son père et était restée vivre avec sa mère. Voilà, donc du coup, j'ai eu un début de relation pendant 1 an, donc avec mon conjoint, sans sa fille dans notre vie. Mmh. Et puis, du jour au lendemain, donc elle a décidé de venir vivre avec son père et plus avec sa mère. mais de vivre avec son père uniquement. Voilà, et pas avec moi et ma fille. Donc du coup, on s'est retrouvé dans une situation où il a dû prendre l'été dernier un appartement pour vivre avec sa fille. Donc on n'est pas très très loin, hein. On est à une vingtaine de minutes l'un de l'autre. Mais ça a quand même été un gros chamboulement dans notre couple. Et du coup, forcément, notre couple en a pâti. Voilà, donc il y a eu un manque de communication, manque de présence, manque d'affection dans le couple, et du coup on était redevenus au statut de parents chacun de son côté, mais le couple lui-même n'était plus vraiment là, donc il fallait presque se donner rendez-vous pour se voir, donc au bout d'un an.
Ouais. Et ce qui est toujours de compliqué, Marie, c'est que là quelque part on a l'impression que sa fille devient votre rivale et c'est elle qui l'emporte, puisque c'est elle qui prend la décision d'éloigner son père de vous, quoi, donc.
Ouais.
Et c'est vrai, moi j'ai quand même tendance à le dire, tant pis s'il y a des personnes qui seront choquées ou pas d'accord, j'ai quand même tendance à dire que c'est pas les enfants qui décident pour les parents, quoi.
Tout à fait. Et c'est vrai que lui, le fait donc que sa fille n'ait pas voulu le voir pendant plusieurs mois, voire une année, à cause du divorce avec sa mère.
Je comprends bien.
Ça se comprenait qu'il voulait un peu rattraper le tir et retrouver un peu des moments de complicité avec sa fille. Donc ça, je l'entends, c'est tout à son honneur de papa. Mais disons que il m'a mis de côté, il m'a mis au second plan. Et il aurait fallu qu'il trouve la solution à ce moment-là pour que tout le monde y trouve son compte et soit heureux. Et c'est vrai qu'il m'a un peu abandonné. Ouais,
mais elle a quel âge ta fille?
Elle a 16 ans.
Oui, donc elle est capable d'entendre « Écoute, tu ne voulais pas vivre avec moi, je vis maintenant avec Marie, tu es la bienvenue. Mais bon... »
Oui.
Et vous en êtes où alors aujourd'hui?
Et du coup, voilà, donc l'année dernière, donc les 2-3 premiers mois de cette séparation, donc ça a été très brutal parce qu'on s'est mis ensemble de suite. Il est venu vivre à la maison et au bout d'un an passé, me retrouver seule à la maison le soir, ça a été un déchirement. Donc du coup, au bout de 3 mois de séparation, on va dire, de domicile, je lui explique. Mon chagrin, tout ce que je ressentais. Et lui ne le voyait pas parce que du coup, il était tellement focalisé sur cette nouvelle vie de papa à temps plein qui m'en oubliait complètement. Et puis, il essayait de me rassurer en me disant non, ça change rien pour nous. Mais ça changeait puisqu'on n'avait plus notre quotidien, on n'avait plus nos échanges, on partageait plus de vie de couple ni de vie intime. Donc évidemment qu'il y avait un changement, mais lui ne le voyait pas parce qu'il était omnubilé par la
oui, d'avoir retrouvé sa fille, oui.
D'avoir retrouvé sa fille, voilà. Donc si vous voulez, à deux reprises l'année dernière, donc je pesais le pour et le contre. Est-ce que je vais le tolérer encore longtemps d'être loin de lui? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être patiente? Chose que je ne suis pas en temps normal, patiente. Donc du coup, on en a discuté. Donc il était aussi intelligent là-dessus, il comprenait ma situation et il aurait été d'accord de qu'on se sépare, mais à contre-cœur pour me faire plaisir à moi. Mais je sentais au fond de moi cette petite voix qui me disait « Ne le fais pas parce que tu vas le regretter. » Et à deux reprises, j'ai eu quand même cet élan de vouloir remettre un terme à la situation parce que j'en souffrais trop. Et plus je lui disais, et plus il en prenait conscience, et plus il a fait d'efforts, et il a mis des choses en place justement pour se rendre compte qu'il avait mis un couple involontairement, notre couple, en péril.
En danger. Oui.
Et en fait, il a vraiment redoublé d'efforts. Et aujourd'hui, il est vraiment. On est toujours donc séparés avec nos deux logements différents, mais aujourd'hui on est vraiment dans une optique d'habiter ensemble et vraiment il y a un changement considérable qui s'est fait parce que voilà, j'ai réussi à lui ouvrir les yeux et je me dis heureusement que cette petite voix intérieure m'a dit ne cède pas et crois en ta relation avec lui. Crois en cet homme que tu aimes, parce que sinon je serais passée à côté de ce bonheur. Et c'est vrai que parfois on fait des choix sur un coup de tête et après
j'aime bien.
Et des fois, c'est trop tard.
Oui.
Hein.
Merci de ce témoignage, Marie, parce qu'il est très important. On voit bien que parce qu'on veut mettre fin à une souffrance, on peut avoir une attitude qui est contre-productive, parce que finalement, oui. Vous auriez eu sur le moment l'impression d'aller mieux. Et alors, il y avait peut-être aussi de l'amour propre, enfin, des choses qui finalement auraient pu vous faire mettre fin à une histoire qui a encore de beaux jours devant elle. Yves-Alexandre Kellmann, oui. qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter?
Je vais rebondir sur ce que vous avez dit, Brigitte, en début hein, de cet échange, en commençant par au risque de vous choquer. Je dois dire que non seulement je suis pas choqué, mais je le dis encore plus fortement. Les adultes sont les adultes, les enfants sont les enfants. À 15 ans, à 16 ans, à 17 ans, un enfant reste un enfant. Et une décision d'adulte est prise en adulte. Et là, moi, ce qui me semble important dans cette situation, c'était pas tellement l'histoire de on vit ensemble, on vit séparément, j'ai envie de rattraper le temps perdu avec ma fille ou pas, mais c'est je veux, papa, vais discuter avec toi, donc Marie, nous, adultes, on exclut les enfants de l'équation, on discute entre nous pour essayer de trouver des solutions et après, on propose ces solutions à l'enfant. Et puis, à la limite, on peut même l'obliger. On a une autorité hein, comme parent. Mais là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une rupture de confiance puisque l'homme a pris la décision seul en fonction de ses intérêts pour sa fille. Et ça, ça laisse une trace quand même. Alors, vous voyez, c'est moins la question de « j'aurais fait une erreur, pas fait d'erreur ». Que j'apprends, là il y a une leçon. Moi dans ce cas-là, j'apprends quelque chose et j'apprends, et j'en discuterai avec cette personne en disant voilà, si on continue maintenant qu'on a des projets de vivre ensemble ou de rapprocher cette relation, de la pérenniser, alors il est important pour moi que les décisions qui nous concernent, on les prenne ensemble. Ça c'est la leçon.
Oui, Marie.
C'est d'ailleurs ce que je lui avais un peu reproché. C'était évidemment qu'il m'en avait parlé. Moi, sur le coup, ben, évidemment, je m'étais dit, on n'a pas de solution. Si elle veut ça, je peux pas le lui interdire. Et c'était compliqué à son père, au bout d'un an, sans voir sa fille, de le lui interdire aussi. Donc, la décision ne m'appartenait pas à moi seule. Mais c'est vrai qu'il l'a un peu prise... seul de son côté, et c'est vrai que voilà, moi j'ai un autre fonctionnement avec mon enfant où je considère que voilà, comme Yves-Alexandre disait, un enfant qui est 10 ans, 15 ans ou 17 ans, c'est le parent, c'est les parents qui doivent donner la donne, qui doivent imposer les choses, et il a pas su imposer à sa fille.
Mais Marie, puisque vous êtes assez consciente, assez lucide, moi j'ajouterais même qu'il donne à sa fille qui a 16 ans la sensation d'être en couple. À un moment donné, et ça c'est très très mauvais pour sa fille, parce que comment elle va remplacer papa par la suite, mais enfin ça c'est encore une autre histoire.
Mais oui,
mais c'est vrai, on sait que dans les familles monoparentales, quand il y a un garçon avec sa mère ou une fille avec son père, ça crée des situations assez troubles qui peuvent ensuite avoir des répercussions sur la vie amoureuse de l'enfant. Hein. 16 ans, c'est plus un bébé. Hein.
Tout à fait. C'est pour ça que oui, je vous écoute.
Oui, je voulais dire, j'ajouterais encore une dimension. Ça m'est arrivé de le dire aussi à des personnes qui étaient confrontées à ce type-là de décision. C'est de dire que l'amour maternel ou paternel, il a une caractéristique, et je crois qu'il faut bien l'avoir en tête. Il a comme objectif final, quand on a bien fait le job de parent, la séparation. On élève des enfants pour qu'ils partent. Par contre, on est avec un conjoint pour qu'il reste. Hein, si tout va bien. Et avec le temps, on se dit quoi ? Est-ce que j'investis du temps, en l'occurrence ici, puisqu'on voit qu'il y a une sorte de tension, pour une adolescente qui va partir au risque de perdre ma conjointe, Ou bien est-ce que je vais mettre du poids sur cette relation puisque sur les années qui va nous rester à vivre, ben espérons qu'on puisse le faire ensemble et donc je peux investir dans cette relation-là.
Tout à fait.
Il a eu de la chance, hein, Marie, que vous soyez patiente. Et puis, peut-être, hein, encore une fois, on va lui trouver une circonstance atténuante. Il devait peut-être la culpabilité d'avoir quitté la mère de cette fille et que bon, il
tout
a voulu se rattraper. On va lui donner une circonstance atténuante. Mais bon, c'était important de le dire pour tous ceux qui écoutent. Et puis,
c'était pour apporter un message positif et dire que on fait tous des choix. Délicat, des fois des choix qui prennent du temps, qui peuvent prendre des années à aboutir, mais la réflexion et s'écouter soi et prendre le temps de s'écouter, de poser le pour et le contre, c'est important que de
prendre des décisions
sur le vif.
Oui, sur le vif. Mais en tout cas, le message que vous a donné Yves-Alexandre Talman est intéressant. Hein, aborder cette question de est-ce qu'on peut se faire confiance dans l'avenir et prendre ensemble les décisions. C'est peut-être la conclusion de votre joli témoignage, Marie. Merci beaucoup.
Merci en tout cas de m'avoir écouté.
Je vous en prie. Yves-Alexandre Talman, dernière petite pause et puis on se retrouve dans un instant pour conclure cette émission que nous avons le plaisir de faire ensemble.
Sud Radio Toulouse
101.8
Sud Radio.
Je crois que la nana venait du Connecticut. On peut dire que la vie lui mettait des supercuts.
Serveuse dans le diner à coup des pommes motel.
Elle porte un tablier qui la rend super belle. Quand les clients arrivent, ils commandent des meatballs. Le regard dirigé vers le match de baseball.
Personne ne la regarde, pourtant c'est une beauté. Une femme ordinaire que l'on a sous-côté.
Mais dès qu'elle le peut, elle danse dans l'arrière-salle. Personne ne peut voir qu'elle a le méga style. Dès qu'elle le peut, elle danse dans l'arrière-salle. Personne ne peut voir cette danseuse étoile. Qui danse. Scénariste. Ça break, ça danse, on est dans la street. Les groupes se forment, y'a des gars, des filles. Y'a du rap rock, y'a des défis. Et puis y'a ce mec en apesanteur. Moitié condor et moitié breaker. Un performeur, je te le jure, j'insiste. C'est un danseur unijambiste. Personne ne demande ce qu'il fait là. Ici on se fout des vuvuzelas. Avec Becky, il devient gymnaste. Il gère l'espace, il est trop classe quand il danse. C'est naturel, ça sonne comme une évidence. Il danse, quelle que soit la distance. La transe est un dialogue qui crée la correspondance. Ils dansent pour leur indépendance. Qu'importe la gouvernance, quelle que soit la présidence. Ils dansent sur champ de résistance. La danse de la pluie pour amener l'abondance. Ils dansent.
Le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Et je rappelle le titre de ce livre qui est un peu le fil rouge de l'émission aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut être con? C'est aux éditions Marmaga et c'est Yves-Alexandre Talman qui en est l'auteur, qui nous a bien guidés durant ces 2 heures pour prendre les bonnes décisions ou en tout cas à prendre les trop mauvaises et pas trop sur le coup de l'émotion, hein, comme vient de très joliment nous l'exprimer Marie. Il me semble, Arnaud, vous n'êtes pas trop con, hein, ça va, vous arrivez à prendre les bonnes décisions, bonjour.
Bonjour à vous, merci de me recevoir. Je pense que c'est tout un travail, hein, tout un programme, hein,
ouais,
pour tenter d'apporter un peu de lucidité dans toute cette complexité, je dirais. Moi, pour ma part, j'ai pas trop fait de grosses erreur. Je crois que c'est resté un peu d'ordre mineur. Donc, du coup, je m'en suis un peu protégé, mais je pense que, comme tout le monde, j'ai fait des expériences et parfois pas toujours satisfaisantes, je dirais, dans la rencontre de son prochain. Et je trouve que le développement personnel permet quand même d'arriver à essayer d'entrevoir quelque chose. Déjà, de travailler sur soi pour, voilà, si on est dépendant affectivement, etc. Ben, je pense qu'on peut avoir une rencontre qui peut ne pas être la bonne, qui ne nous est pas destinée à, si on, pour moi, n'est pas dans un plein potentiel.
Alors, il y a une chose dont on n'a pas du tout parlé, et ça m'y fait penser, votre témoignage m'y fait penser, Arnaud. On n'a pas du tout parlé de ce que j'appellerais cette intuition, qui est une sorte comme ça de d'œil laser de notre cerveau, qui va plus ou moins nous guider vers ce qui est bon pour nous ou pas. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Yves-Alexandre Talman? Je ne suis pas sûre que vous soyez très d'accord, d'ailleurs. Vous connaissez.
En fait, oui, je crois beaucoup à l'intuition, mais dans sa définition scientifique, pas dans sa dimension plutôt ésotérique ou magique. Autrement dit, c'est pas tout d'un coup une décision ou une information qui nous vient de on ne sait où, on ne sait où. Mais par contre, ce qui est important, c'est que on a l'intuition qui peut s'entraîner. Autrement dit, on peut devenir expert. De la même façon que si je vais avec un bruit bizarre dans mon moteur chez le garagiste, il n'a pas besoin de faire toute une analyse logique, mais il aura quelque chose qui va très vite arriver en conscience et il saura. Hein. Donc, ça veut dire que quand on automatise certaines prises de décision, après, on peut avoir des réponses qui viennent de façon fulgurante dans notre cerveau, mais on sait d'où, hein, quelque part. C'est de cette accumulation d'expériences. Et ça me permet de dire que justement, et là je rejoins Arnaud, toutes ces expériences, alors plutôt que de parler d'erreurs, de mauvaises décisions, on peut effectivement parler d'expériences, nous sommes des êtres apprenants, elles viennent nourrir hein, cet ensemble de connaissances qui nous permet ensuite de peut-être percevoir de plus en plus rapidement les options qui sont plutôt favorables pour nous. Et dans ce sens-là, oui, on peut parler d'intuition, c'est-à-dire d'informations qui nous sont qui apparaissent dans notre champ de conscience sans forcément qu'on ait nourri une réflexion logique, laborieuse et systématique.
Donc vous seriez d'accord pour dire que finalement l'intuition c'est une capacité rapide de connecter nos différentes cellules du cerveau et de trouver là un peu comme une intelligence artificielle quoi.
Oui, ce serait faire un cas un peu trop grand de l'intelligence artificielle à mon goût, mais je pense que notre cerveau est beaucoup plus capable de faire ceci, mais ça c'est un autre débat.
C'est un autre débat. Arnaud, je vous redonne la parole, pardon.
Ouais, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, et bien sûr, je pense que pour avoir, je crois aussi beaucoup en intuition, et je crois que pour avoir une intuition bonne, il faut ne pas être dans un excès d'émotion, et je pense que ça aussi c'est une expérience à faire, hein, l'intuition, quand est-ce qu'elle est bonne, quand le ressenti est-il bon, et je pense que c'est tout un programme aussi, et je pense que, entre guillemets, pour moi, mes expériences m'ont appris que l'excès d'émotion parfois ne pouvait ne pas perdre le regard juste quant à nos ressentis. Je crois que c'est ça, c'est compliqué à sentir et à entrevoir, je crois.
Oui, mais vous avez raison. On dit d'ailleurs qu'il ne faut jamais réagir et prendre une décision sous le coup de l'émotion.
Et exactement. Et je pense que quand on parle d'amour et quand on parle de relations, justement, ou quand l'amour vient galvauder un peu ce regard ou cet œil juste, eh ben, y a besoin de prendre voilà, tout ce recul-là nécessaire, selon moi. Parce que voilà, l'amour rend aveugle et bien sûr qu'un excès d'émotion peut justement camoufler certaines choses qu'on peut pas voir et se retrouver dans de bien beaux draps une fois qu'on s'en rend compte, souvent trop tard, selon moi.
Oui. L'amour rend aveugle, mais le mariage lui redonne la vue. Alors, l'amour rend aveugle, je crois que c'est une phrase un petit peu dure quand même. Je crois que l'amour peut aussi nous permettre de prendre confiance en nous, peut nous permettre de nous découvrir. Parfois, on va aller vers telle personne par une sorte justement d'intuition que c'est la personne qui va nous permettre d'aller dans la direction qui nous convient, non? Soyons un peu positifs quand même sur l'amour, Yves Alexandre Talman.
Je serai aussi positif sur les émotions, considérant la nuance que Carnot vient d'amener. On pourrait dire que nos émotions, il faut quand même les écouter. Mais attention, elles ont une voix consultative. Ne leur laissons jamais une voix décisionnelle. Donc, écoutez les émotions, mais ne pas les suivre aveuglément.
Exactement. Bon, et ben c'est sur cette sentence que nous allons conclure cette émission. Merci à vous, Alexandre Talman. N'hésitez pas, en tout cas, à lire Alexandre Talman. C'est toujours très très instructif. Merci beaucoup, Arnaud. Et puis, bravo. Hein, vous êtes philosophe. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Dolovan. Demain, on sera avec Samuel Doc et on va essayer de comprendre pourquoi on a tant de mal à dire non et comment on peut apprendre à dire plus facilement non. Ça aurait pu être aussi un sujet pour vous, Yves-Alexandre. Talman. Merci en tout cas. Et puis je vous embrasse et je vous dis à demain.
Sud Radio à Chalon-sur-Saône en DAB+.
Sud Radio.
J'aime tes vins de Bourgogne qui me racontent des histoires. Tes petites piquettes qui cognent et sentent bon le terroir. Je m'enroule dans ta manche, je rêve de tes tropiques. J'aime tellement tes dimanches, ta campagne et tes criques. Chez toi on se sent libre, égal et fraternel. Et même quand tu m'enivres, tu m'accroches à tes prunelles. Tous les 14 juillet, tu brilles de mille feux. On est tous aux aguets, les petits, les grands, les vieux. Chaque fois que je veux partir, voyager, voir du pays, je reviens pour ton sourire. Ma France, tu m'as tout appris. On peut faire le tour du monde, visiter Vienne ou Florence, aimer les brunes ou les blondes. On ne fait jamais le tour de France. On ne fait jamais le tour de France. J'aime tes petites places, ricard et puis pétanque. M'asseoir à tes terrasses ou sirop à la menthe. T'as le goût de la fête, tes rêves parlent fort. T'as tellement de facettes et tellement de décors. Chez toi on ne s'ennuie jamais, t'as ton petit caractère. Quand on te marche sur les pieds, tu lèves le poing en l'air. Unis on est plus fort, même quand on se fait la guerre. On s'engage et alors on reste solidaire. Chaque fois je veux partir, voyager, voir du pays. Je reviens pour ton sourire. Ma France, tu m'as tout appris. Sans chez soi, un petit bout de terre. C'est bien joli la Bretagne, et c'est bien bon le Finistère. Et quand l'Alsace te gagne, tu reviens pas en arrière. Chaque fois je veux partir, voyager, voir du pays. Je reviens pour ton sourire, ma France, tu m'as tout appris. Jamais le tour de France, la pa la pa, la pa la pa. On ne fait jamais le tour de France, la pa la pa, la pa la pa.
Sud Radio.
Sud Radio.
stars.